VOA Afrique, l'info sur 24 sur 24.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous suivez Sporama sur VOA Afrique. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, on fait le point de l'actualité sportive à travers le monde. Élisée Moukassi, devant ce micro, on va parler ce soir du 6e championnat d'Afrique des nations de football qui se joue actuellement au Cameroun. Moment choisi d'ailleurs par certains candidats aux prochaines élections à la présidence de la CAF pour battre campagne. Et puis, du handball avec le mondial égyptien qui n'a pas du tout réussi aux représentants africains. Et pour en parler, on retrouve comme d'habitude nos consultants. On retrouve en direct depuis Yaoundé, Valdo Simbo Yamba Yamba. Valdo, bonsoir et bienvenue au Cameroun.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amin Birouk est à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amin.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Amédine Sy est du côté de Columbus dans l'Ohio. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis Lawal Dine Kossourou avec moi dans ce studio. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
Bienvenue à tous. Le 6e championnat d'Afrique des nations de football, le CHAN, aborde sa 3e journée des matchs de poule. Et désormais, 2 matchs se joueront en simultané, mais sur différents stades. On prend la direction de Yaoundé au Cameroun pour retrouver Valdo. Alors, la RDC, avec 4 points, joue actuellement sa qualification face au Niger qui compte 2 points, sans trop de pression.
Sans trop de pression, vous dites, Élisée, je ne pense pas. Quand on sait que l'adversaire de la RDC aussi joue sa qualification avec obligation d'une victoire, tandis que les Léopards n'ont besoin que d'un point, soit un nul, pour obtenir cette qualification. Double vainqueur de cette compétition, la RDC n'est pas du tout à l'abri d'une élimination, d'où l'obligation d'éviter la défaite face au Niger, même si elle peut la qualifier au cas où le Congo l'emportait sur la Libye, grâce notamment à la confrontation directe avec les Diables Rouges qui auront 4 points. La pression est montée d'un cran à Élisée la veille de ces matchs, aussi importants avec d'autres cas de Covid-19 signalés dans le rang des Léopards de la RDC. La plus démocratique du Congo n'a plus qu'un seul gardien, puisque Nathan Mabruki, qui a gardé la cage des Léopards contre la Libye, est testé positif. Ce scénario met une forte pression côté Léopard, même si les premiers testés positifs ont regagné les groupes. Covid-19 est en train de sévir le rang du Léopard de la RDC, situation qui inquiète.
Amin, dans son groupe, le Maroc champion en titre doit éviter tout piège contre l'Ouganda demain à Douala.
Verdict reporté pour le tenant du titre à l'occasion de ce CHAN après le match nul du Maroc face au Rwanda 0-0 au cours d'une rencontre où les poulains de Hussein Aimouta ont été incapables de produire le jeu escompté. Un seul tir cadré, peu d'approximations, une équipe très décevante et la presse marocaine n'a pas manqué de mettre et de clouer au pilori le sélectionneur national pour certains de ses choix. On va voir dans quelle mesure le tenant du titre va pouvoir se ressaisir lors de cette confrontation. Il suffirait d'ailleurs d'un nul pour que le Maroc se qualifie, mais il va falloir que le tenant du titre puisse mettre un peu plus la manière après avoir eu 2 rencontres très très bancales.
Lawal, la grande sensation, c'est bien sûr le Togo qui a son destin en main face au Rwanda à Limbé.
Et on espère que les Togolais vont pouvoir rester dans la même dynamique et remporter ce match-là, parce qu'il est temps pour les Togolais, avec l'arrivée de Claude Leroy, qu'ils puissent montrer ce qu'ils ont dans le ventre et permettre à cette équipe togolaise de se relancer dans cette compétition.
Surtout que cette première victoire dans cette compétition les a galvanisés.
Oui, la victoire les a galvanisés complètement, et ajouté à l'arrivée de Claude Leroy, qui est venu soutenir son alter ego des locaux, on a bien l'impression que les Togolais ont pris confiance en eux-mêmes, et puis on attend de voir ce qui va se passer pour cette rencontre finale, parce que c'est la finale du groupe et on espère que les Togolais vont franchir le cap.
On vient vers vous Amédine, il a fallu attendre la 3e journée hier pour connaître les 2 qualifiés du groupe A.
tout à fait, Élisée. Il a fallu attendre la troisième et dernière journée des matchs de poule pour connaître les deux premiers qualifiés du groupe A. Sachez, Élisée, qu'il s'agit du pays hôte, le Cameroun, et du Mali, les Lions indomptables locaux qui ont été tenus en échec par le Burkina Faso ont composté le ticket pour les quarts de finale malgré ce match nul. Mais les Camerounais se contenteront de la deuxième place du groupe car le Mali qui s'est imposé devant le Zimbabwe sur le score 2-0 occupe le fauteuil de leader. Retenez que le Burkina Faso de notre ami Yacouba et de Zimbabwe sont éliminés. Élisée.
Sacré Amédine, autant pour le Burkina aussi.
Oui, les Burkinabés n'auront que leurs yeux pour pleurer après avoir vendangé autant d'occasions, après avoir montré qu'ils avaient quelque chose à prouver, mais ils n'ont pas eu la chance de scorer et de pouvoir sortir le pays hôte de cette compétition. Malheureusement pour les Burkinabés, et Amédine le disait, malheureusement pour Yacouba également. Oui, donc ce n'est que partie remise. On espère que les Burkinabés vont tirer le son de ce qu'ils ont vécu au coup de ce Chan et pouvoir en imposer les prochaines éditions.
Lawal, ce Chan a permis également aux candidats de la prochaine élection au poste du président de la CAF d'initier des rencontres avec des délégués de certains pays. Le cas d'Augustin Senghor, le Sénégalais présent au Cameroun, est en train de mettre toutes les chances de son côté.
Oui, Augustin Senghor profite de l'occasion. Et c'est tout à fait normal qu'il le fasse. Maintenant, c'est aux délégués des différentes fédérations de voter en son temps. On espère que ces contacts qu'il est en train de prendre vont peut-être payer, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, que la confédération puisse être mieux gérée. C'est le souhait de tout bon sportif en Afrique aujourd'hui, que la mafia puisse rester un peu loin de tout ce qui se passe à la tête de la CAF, c'est l'essentiel.
Il est très actif, hein, il faut
le
dire.
Très actif.
Après le Cameroun, il s'est retrouvé du côté de Praia pour lancer officiellement sa campagne.
Il lance la campagne comme il le fait là et tout le reste. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il a l'unanimité autour de lui au sein donc de la CAF? On verra bien.
D'aucuns parlent de la continuité d'Ahmad Ahmad.
Tout à fait normal. Il connaît la maison et tout le reste. Donc, il faut dire, c'est la question du type de dirigeant à avoir pour la CAF qui se pose avec ces différentes candidatures. Donc, espérons que les uns et les autres, à un moment donné, vont changer de mentalité et faire les choses en grand pour qu'on continue pas de parler donc de corruption au sein de la CAF.
Amédine Sy, le patron du foot sénégalais ne veut négliger aucun détail.
Tout à fait, Élisée, comme presque tous les candidats à la tête de la Confédération africaine de football, le patron du foot sénégalais a effectué le déplacement sur le Cameroun pour non seulement assister au Chan, mais aussi manœuvrer en rencontrant plusieurs présidents de fédération sur place. En effet, M. Augustin Senghor compte ratisser l'âge afin d'avoir le maximum de délégués. Et il n'est pas seul dans cet exercice, car il est en compagnie du ministre des Sports, Matarba, qui a également effectué le déplacement sur le Cameroun. Mais avant de rallier Yaoundé, le patron du sport sénégalais est passé par la Côte d'Ivoire, chassé Élisée, que le président de la Fédération sénégalaise de football a lancé officiellement sa campagne électorale ce samedi. C'était à Praia. Le patron du foot sénégalais a profité de l'Assemblée générale de la zone IFOA pour lancer sa campagne électorale. Il a même dévoilé son programme qui est marqué par 4 axes prioritaires. Élisée.
Amine Birouk, selon les infos, Senghor a le soutien de Constant Oumari. Le Congolais, président intérimaire de la CAF, aurait même déjà approché à Yaoundé la délégation algérienne amenée par Kérédine Zéchi.
Effectivement, Élisée, il y a eu un premier tour de chauffe de la part de la plupart des candidats qui étaient présents à Yaoundé pour se faire connaître, signaler leurs intentions et surtout essayer de faire du B2B avec les membres du comité exécutif de la CAF, les différents présidents de fédérations présents à l'occasion de l'ouverture du chaîne. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une tendance qui s'esquisse avec les pros Motsepe et les pros Yahya, et puis le camp francophone qui essaye de se rassembler autour d'une des deux candidatures. La plus en vue est celle de Maître Augustin Senghor, qui a déjà imprimé des fascicules de campagne, essayer d'expliquer son programme et ses idées pour développer le football africain. Augustin Senghor se positionne comme, visiblement, le leader de la continuité, puisqu'il a été membre du comité exécutif, que ce soit avec Issa Hayatou ou avec Ahmed Ahmed. Mais il y a également les candidats de rupture, comme Patrick Motsepe, qui bénéficient du soutien de la FIFA. D'ailleurs, Gianni Infantino est monté au créneau à Yaoundé pour taper du poing et essayer de trouver une solution pour qualifier ces deux poulains, à savoir Motsepe et Ahmed Yahia.
Valdo, Omari n'a donc pas caché sa préférence pour Senghor, son collègue du comité exécutif, au détriment de l'autre candidature issue de la CAF, celle du Mauritanien Ahmed Yahia.
Élisée, ce qui paraît tout à fait logique pour l'actuel président de la CAF, le Congolais Constant Omari Selemani, qui pense vers le choix de la continuité de la politique d'Ahmad Ahmad, que les Sénégalais Senghor incarne. Je crois l'avoir déjà dit que Senghor est le premier choix de la CAF en l'absence du Malgache. Et Omari le sait très bien. Le Sénégalais a été le dernier à déposer sa candidature après que pratiquement la sanction sur Ahmad Ahmad ait été confirmée. Il est le premier à se lancer en campagne en attendant l'approbation des candidatures. Le Sénégalais joue sa carte et pratiquement celle du comité sortant. Question de préserver le peu d'acquis obtenus sous la gestion non sans peine du comité sortant. Et Constant Omari Selemani est bien. D'autres présidents des fédérations avaient déjà dit oui au Malgache avant qu'il ne soit frappé. Et aujourd'hui, Senghor, qui se pointe en dauphin, ne peut que bénéficier du soutien de l'actuel président de la CAF.
On reste toujours au Cameroun pour dire que le tribunal arbitral du sport annule l'élection du président de la FECAFOOT. À la veille du coup d'envoi du CHAN, le TAS, dans une lettre, annule l'élection de Seydou Mbombo Djoya à la tête de la Fédération Camerounaise de Football depuis décembre 2018. Ce dernier avait été élu pour un mandat de 4 ans face à l'ancien gardien de but des Lions Indomptables, Joseph-Antoine Bell et Daniel Niamsi. Plus de précisions avec notre correspondant sur place à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntapa.
C'est par une requête en 12 points que certains clubs locaux ont saisi le 20 avril 2019 le tribunal arbitral du sport, demandant l'annulation de l'élection de l'ancien exécutif de la FECAFOOT. Ces clubs ont émis des réserves sur l'Assemblée générale élective, ainsi que sur le texte adopté le 10 octobre 2018 et ayant conduit au choix de Seydou Mbombo Djoya. Thierry Ndo, journaliste sportif.
Près du quart des membres de cet AG n'avaient jamais été convoqués pour adopter ces textes. Des gens qui sont arrivés le matin même de l'élection et qui ont reçu les documents. Alors, les textes en vigueur alors parlent de 8 jours au préalable avant de venir à l'Assemblée générale. On a également évoqué des soupçons de corruption.
Lors de son récent séjour au Cameroun, les propos de Gianni Infantino, président de la FIFA, ont semblé néanmoins conforter l'exécutif déchu.
C'est l'équipe dirigeante actuelle qui va mettre en place cette décision, évidemment avec le soutien et le support de la FIFA qui va vérifier que tout se passe correctement.
Les présidents de clubs contestataires ont d'ailleurs protesté devant le siège de la FECAFOOT contre le maintien de Seydou Mbombo Djoya dans les lieux. Pour leur part, les présidents des clubs amateurs ont apporté leur soutien à l'ancien exécutif afin qu'il gère les affaires courantes. La date de la nouvelle élection n'est pas encore connue et le journaliste Thierry Ndo est loin de penser que le football camerounais va sortir de la crise actuelle même après cette élection. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Valdo, c'est une décision qui peut bouleverser les choses quand on se rappelle le rôle que joue la FECAFOOT dans l'organisation du CHAN.
Je suis tenté de dire, pas totalement, Élisée, loin de moi l'intention de minimiser le rôle de la Fédération Camerounaise de Football dans l'organisation de cette 6e édition du Championnat d'Afrique des Nations. La preuve, la compétition, elle, poursuit son bon nombre de chemins sans écho de cette sanction et aucune influence sur l'ensemble de la compétition, du moins jusque-là. Ma crainte est qu'elle puisse plutôt avoir une certaine influence sur la sélection camerounaise qui est déjà sous pression en tant que sélection haute et dont la tanière n'est pas épargnée. De certaines divergences de notre regard, je suis d'avis que cette décision va bouleverser les choses puisqu'elle tombe entre le CHAN en cours et la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun va abriter en 2022. Quand on sait que la fédération, pour ne pas dire le président, a toujours eu un rôle important en pareilles circonstances.
Ahmedine, le Cameroun du foot ne cessera jamais de surprendre.
Vous avez raison, Élisée.
car ce qui s'est passé à la veille du coup d'envoi du Chan avec l'annulation de l'élection du président de la Fédération camerounaise de football par le TAS est un vrai coup de théâtre. C'est un coup dur pour Seydou et son équipe, mais il faut dire que cette élection a été contestée dès le début. En tout cas, ce n'est pas une bonne publicité pour le football camerounais qui voit une nouvelle fois son image ternie par cette décision du TAS. Sachez, Élisée, que le football camerounais s'est encore illustré de la plus mauvaise des manières durant ce Chan, Élisée, car lors du match d'ouverture, les Lions indomptables locaux ont été accusés de pratiques mystiques et à cela, il faut ajouter une histoire de maraboutage au sein de la tanière camerounaise, car il paraît qu'un marabout a imposé la titularisation d'un jour lors du match contre le Mali, Élisée. Décidément, avec le Cameroun, on aura tout vu.
Amine, dans la foulée, la FIFA, à travers un communiqué, a notifié qu'il n'y aura pas un comité de normalisation comme l'a recommandé le TAS et que le président Seydou Mbombo Djoya assure l'intérim jusqu'aux prochaines élections. C'est quand même surprenant.
C'est encore une pantalonnade de plus dans la gestion du football africain et surtout au niveau d'un pays aussi prestigieux que le Cameroun. On se rappelle de ces guéguerres, de l'annulation de l'élection de Mbombo Ndjoya qui a été demandée par l'opposition, notamment par les supporters de Joseph Antoine Bell. Et visiblement, le tribunal arbitral du sport leur a donné raison. Aujourd'hui, la FIFA prend acte de cette décision, mais n'octroie pas le fameux comité de normalisation. Aujourd'hui, il y a un intérim qui sera assuré par l'équipe sortante, dont l'élection a été invalidée. Et on va voir dans quelle mesure le Cameroun, après le Chan, pourra se remettre de ses multiples remous. Le plus stupide ou le plus absurde, ce serait de se retrouver avec un bureau fédéral dont le mandat avait expiré en 2009 et qui s'est vu remplacé par de multiples comités de normalisation. Autant dire que le football camerounais, la Fédération camerounaise de football n'est pas sortie de l'ornière.
Lawal, la FIFA passe encore à côté du CTS. Finalement, elle ne respecte rien si ses intérêts sont menacés.
Oui, Élisée, c'est triste. La FIFA est dans un mauvais rôle. La nature a ses règles, autant les respecter. Première règle de la nature, c'est de ne rien dénaturer. La FIFA est en train de vouloir dénaturer ses propres tests au point où on se demande si Gianni Infantino, en son temps quand il voulait être président, s'il pouvait... je ne le voyais pas dans cette posture-là aujourd'hui. C'est triste pour le foot, mais on espère que les grandes juridictions à travers le monde vont prendre les taureaux par les cornes et faire arrêter le désordre au sein des différentes confédérations et autres fédérations.
On revient vers vous, Valdo. La CAF a procédé aujourd'hui dans la journée au tirage au sort des trois groupes de la CAN Junior. Alors, que peut-on retenir ?
Élisée, il faut dire que ce tirage au sort est assez équilibré dans ces trois groupes hein, pour cette compétition prévue du 14 février au 4 mars 2021. Les pays hôtes, la Mauritanie, dont le groupe A va croiser les Cameroun, qui a une certaine culture au niveau du football des jeunes, ça peut se jouer entre les deux dans ces groupes. Mais attention avec l'Ouganda et les Mozambiques qui s'y tiennent en embuscade. Les Burkina Faso, la Tunisie, la Namibie et la République centrafricaine dans le groupe B annonce un duel alléchant entre Burkinabé et Tunisiens sous le regard attentif des autres nations. Dans le groupe C, les Ghana et les Maroc ont l'obligation de faire la différence devant la Tanzanie et la Gambie qui peuvent également être difficiles à jouer. Cette 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors va s'y jouer à fond quand on sait que les deux finalistes de la dernière édition, à savoir les Mali et les Sénégal, sont absents.
Merci Valdo. En match d'ouverture, le pays hôte, la Mauritanie, sera aux prises avec le Cameroun. Pour rappel, cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans se jouera en Mauritanie du 14 février au 4 mars 2021. On prend la direction du Maghreb pour parler cette fois de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Amine, l'Union Nord-Africaine de Football, UNAF, connaît le pays qui va la représenter au Maroc à l'issue du tournoi qualificatif qui s'est déroulé en Algérie. Trois pays pour une seule place.
Et cette unique place qualificative échoit au pays organisateur de ce tour éliminatoire, à savoir l'Algérie. Les Algériens avaient dominé lors de leur première sortie la Libye sur le score de 3-2. Les Tunisiens l'avaient emporté face à ce même adversaire libyen 2-1. C'était une finale ce dimanche. Un match nul suffisait aux Algériens au bénéfice du nombre de buts marqués. Et c'est ce qui a été obtenu par les jeunes Fennecs qui ont réussi à tenir en échec une Tunisie un peu plus volontaire sur le score d'un but partout au cours d'une rencontre qui a été émaillée la veille de communiqués offensifs de la part des deux fédérations à propos de terrains d'entraînement qui n'étaient pas disponibles. La Tunisie accusant l'Algérie de ne pas la favoriser ou en tout cas de porter préjudice à ses intérêts. Aujourd'hui, l'Algérie rejoint le Maroc, pays organisateur de la CAN-U17, dans cette manifestation qui démarrera dans le courant du mois de mars, en marge d'ailleurs du congrès électif de la CAF.
Merci Amine. Outre l'Algérie, sont aussi qualifiés la Côte d'Ivoire et le Nigeria dans la zone B de l'UFOA, l'Afrique du Sud et la Zambie pour la zone COSAFA et pour la CECAFA, la Tanzanie et l'Ouganda. Handball pour finir cette émission. Direction l'Égypte pour dire que c'est finalement deux équipes africaines qui ont pu se qualifier pour le second tour du premier championnat du monde à 32 équipes sur les 6 du continent engagé. Amédine, et l'Algérie ne jouera pas les quarts de finale suite à sa défaite concédée face à la France.
Élisée, il faut reconnaître que le niveau du championnat du monde de handball est très très relevé et les équipes africaines ont eu du mal à tirer leurs épingles du jeu. C'est vrai que deux qualifiés sur 32 équipes, c'est peu, mais je pense qu'il faut continuer le travail car la marche était trop haute pour les équipes africaines. Une équipe comme l'Algérie a remporté le derby maghrébin devant le Maroc, mais les Algériens n'ont pu rien faire face à la France, donc il faut redoubler d'efforts, continuer à travailler, puisque le niveau du championnat du monde est très relevé. Élisée.
Lawal, l'espoir de l'Afrique se repose désormais sur l'Égypte. À domicile, les pharaons vont mettre toutes les chances de leur côté.
Oui, Élisée, il faut dire, après la déception des autres représentants africains, les pharaons ont au moins fait honneur donc au continent en accédant à ce tour. Et il faut espérer que les dieux de l'Égypte soient avec les pharaons, que les dieux de l'Afrique soient également avec les pharaons pour que qu'ils puissent poursuivre cette aventure qu'ils ont bien démarrée.
Ils doivent désormais hausser le niveau de leur jeu s'ils veulent faire mieux que la Tunisie demi-finaliste il y a quelques années.
Forcément, et au regard de ce qu'on observe sur le terrain, on a bien l'impression qu'ils sont conscients de ce qu'ils doivent faire et ils le feront, j'en suis convaincu.
Amine, la plus grosse désillusion est du côté de la Tunisie, nation phare du handball africain. Le Maroc aussi pouvait faire mieux.
Et on est passé d'ailleurs aux choses sérieuses avec une équipe d'Égypte qualifiée pour les quarts de finale après avoir réussi à accéder au tour principal et la sélection algérienne qui va devoir se contenter après avoir passé le premier cap au dépens d'ailleurs du Maroc de jouer les matchs de classement. D'ailleurs, ce sera un classement honorable pour l'Algérie. En revanche, déception pour la Tunisie, habituée à jouer les premiers rôles. La Tunisie a été un des premiers pays africains à avoir atteint les demi-finales, c'était en 2005. Et puis le Maroc qui espérait passer le cap du premier tour, mais une défaite dans les dernières secondes face à l'Algérie est venue altérer ses plans. Les Marocains qui préparent la prochaine édition de la CAN qui aura lieu en 2022 à La Youn. Autant dire que ces matchs de classement, dans le cadre de ce qu'on appelle la poule de consolation ou la poule du président, va leur servir pour pouvoir roder davantage leurs automatismes et préparer l'échéance qui aura lieu dans 12 mois exactement.
Valdo, renversé en Coupe du Président, la RDC continue sa progression en signant sa première victoire en Coupe du Monde.
L'Afrique a l'obligation de beaucoup travailler afin de rehausser son niveau pour ses participations en pareille compétition, Élisée, puisque le championnat du monde n'est pas n'importe quelle compétition. À travers cette participation, la RDC doit avoir beaucoup appris, puisque c'est une première pour la sélection masculine des Léopards Handball Messieurs de la RDC. Une victoire historique pour le Congo démocratique face à l'Angola en Coupe du Président, 32-31, ce qui est une très bonne chose, et ce, malgré la défaite contre la Tunisie, 22-38. Non seulement que la RDC doit avoir beaucoup appris, mais elle s'est surtout dévoilée au monde, notamment à travers son pivot, Gauthier Mvumbi, avec sa masse qui fait le buzz et devenu élément remarquable à chaque prestation congolaise. Il a d'ailleurs été élu homme du match, malgré la défaite de la RDC contre le Barème. Il faudrait maintenant suivre de près cette sélection congolaise sur le continent après l'expérience acquise durant ce championnat du monde.
Sporama, c'est fini. Merci à vous qui l'avez suivi sur nos différents canaux. Merci également à Valdo Simbo Yamba depuis Yaoundé au Cameroun, à Amedine Si qui intervenait depuis Columbus dans l'Ohio, Amine Birouk à Casablanca au Maroc et puis Lawal Dine Kosovo qui est avec moi dans ce studio. Merci Lawal.
Élisée, c'est moi.
On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Place à l'édition du journal. Au revoir.